Étude biblique du 19 juin 2005. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, sur la route de Rome.
Bonjour à tous, nous sommes très contents de vous revoir. On a eu la tentation d'attendre les premières neiges, mais on s'est dit qu'il faut revenir quand même. Hein? On a quand même décidé de venir vous voir. Enfin, c'était prévu en principe qu'on revienne maintenant. Voilà. Je vous propose que nous ouvrions un texte de la Bible, que nous ouvrions notre Bible, et nous allons lire deux ou trois texte. Le premier, je vous propose dans le livre des Actes, chapitre 19. J'espère que vous n'avez pas à avoir trop chaud. On va essayer de faire en sorte un petit peu d'aération. Il fait bon, hein? Eh oui. Cet après-midi, il fera encore meilleur. Ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est un message sur l'espérance. Nous avons besoin d'espérance, les uns et les autres. Et je crois que ce qui est nécessaire, c'est que nous puissions trouver dans la parole de Dieu, eh bien justement, cette espérance. Il y a différentes choses que nous attendons dans notre vie. Nous attendons, bien sûr, ce qui fait toute notre attente, le retour du Seigneur ou lorsque nous le rencontrerons dans sa gloire. Mais dans la vie, eh bien, il y a tant d'autres choses qui sont purement matérielles, qui font partie finalement de l'existence, des attentes sur le plan sentimental aussi, affectif. Et tout cela, eh bien, nous pouvons les porter devant le Seigneur. Et nous allons lire donc dans le livre des Actes, au chapitre 19, verset 21. Ce passage, c'est Paul qui s'exprime, parce que Paul était un homme comme nous, vous savez. Ouais, il était comme nous, quelquefois on le considère comme un géant de la foi, mais il avait aussi ses besoins, ses attentes. Alors il écrit ceci, « Après que ces choses se furent passées, Paul, on raconte de lui, hein, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'y serai allé, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. » Voilà pour la première lecture. La deuxième, nous allons la faire dans Romains, chapitre 15, verset 23, ou verset 22, si l'on veut. Alors, Romains, chapitre 15, verset 22. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années, écoutez bien, le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Et verset 28 de ce même texte, ce même paragraphe. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Nous sommes, à travers la lecture et la méditation de ces textes, devant la naissance d'un projet. Je reprends les termes qui nous sont donnés dans notre lecture. « Quand j'aurai été là, dit Paul, il faut que je voie Rome. » Alors, je ne sais pas si vous avez formé un jour le projet d'aller à Rome ou en Espagne, si c'est ce que vous attendez depuis longtemps, mais je vais me servir, finalement, de ce qu'il y avait de brûlant dans le cœur de Paul pour nous montrer que ce soit l'Espagne, que ce soit Rome, ou que ce soit ceci ou cela. Ce qui peut se passer dans le cœur d'un croyant qui attend finalement, eh bien, le feu vert de Dieu ou la grâce de Dieu. On pourrait peut-être s'interroger parce que Rome est une belle ville et l'Espagne doit être aussi un beau pays, certainement c'en est un. Alors on pourrait s'interroger pour savoir si c'était une ambition personnelle chez Paul. Après avoir travaillé avec beaucoup de peine dans les contrées qu'il connaissait, de dire « Eh bien maintenant je vais faire un petit peu de villégiature, je vais aller dans tel ou tel endroit. » Rome, pour ne parler que de cette ville, c'était une ville de prestige, ça l'est encore, et c'était une capitale d'empire. Et imaginez-vous, pour un homme comme Paul, romain, bien sûr, par citoyen romain mais également juif, de pouvoir dire un jour, eh bien je vais aller à Rome. Peut-être aujourd'hui l'ambition de notre monde c'est de dire, eh bien on va aller à New York. Peut-être parce que c'est là, on peut dire que c'est une capitale d'empire, on pourrait penser la même chose. Alors on pourrait s'interroger pourquoi Paul est si pressé et écrit ces choses qui semblent banales. On se dit, bon, qu'ils nous disent qu'ils veulent aller à Rome ou qu'ils veulent aller en Espagne, bon, est-ce que c'est vraiment à consigner dans la Bible et que ça va demeurer finalement dans l'Écriture sainte? Est-ce que c'était peut-être pour y chercher ses lettres de noblesse auprès des grands? Je ne connais pas Paul sous ce visage ou sous ce regard. Pour asseoir son autorité d'apôtre, qui était par ailleurs dans tous les pays qu'il connaissait si contesté, et de dire, eh bien, quand je reviendrai de Rome, on va m'écouter, parce que finalement, eh bien, je suis allé dans cette grande ville et on verra finalement la valeur de mon ministère. Mais est-ce vraiment Paul? Je ne crois pas que c'est le personnage que nous connaissons en tous les cas. La vraie raison, nous l'avons lu ensemble, c'est que l'apôtre brûlait d'apporter la grâce de Dieu aux chrétiens de Rome. Et je voudrais signaler que c'était une église qui existait déjà. Ce n'est pas lui qui était le fondateur. Elle existait. Et il avait depuis certainement des mois et voire très très longtemps le désir de dire, eh bien moi je vais un jour aller à Rome et je rencontrerai mes frères de cette ville. Et nous partagerons les bénédictions de Dieu. Les propos suivants trahissent ces motivations lorsque nous relisons dans Romains chapitre 1er verset 10, c'est un autre texte, mais qui introduit bien finalement la mentalité de Paul. Il dit ceci, « Je fais sans cesse, en écrivant aux Romains, je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin » et l'on comprend bien sûr le sens de ce petit mot, « enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous ». Ce sont des lettres qui sont chargées d'amour, qui sont chargées de force, finalement de rencontrer ces chrétiens inconnus. Et la perspective de Rome, c'était probablement un bonheur inégalé pour Paul. C'était l'objet de ses prières, puisqu'il dira qu'il priait sans cesse. Et on peut parler peut-être de la jubilation d'un homme de Dieu, non pas pour faire du tourisme, mais véritablement pour y partager la grâce et la bénédiction de Dieu. Un ultime désir, c'était le feu, la flamme, dans le cœur de ce serviteur de Dieu. Proclamer partout l'Évangile. Toujours dans Romains, puisqu'il écrit son projet à ces chrétiens qu'il ne connaît pas, dans Romains chapitre 1 et verset 15, il est dit, « J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Encore une fois, non pas par goût des voyages ou de l'aventure, mais mu tout simplement par le cœur et par le Saint-Esprit qui brûlait au fond de lui-même, l'amour de Dieu et l'amour des âmes. Et c'est le même apôtre qui écrira plus tard dans une autre lettre, il dira ceci, « L'amour de Christ me presse. » Alors on comprend que tout ce que nous allons voir maintenant, eh bien, c'était sur un fondement, une base, eh bien là, d'amour de Dieu et d'amour pour les âmes. Rome toujours. Un projet qui s'inscrivait dans un autre grand souhait inespéré de l'apôtre. Il y avait peut-être un mot qui enthousiasmait l'apôtre Paul quand il en entendait parler, c'était l'Espagne. Vous avez remarqué, il est question de Rome et il est question d'Espagne. C'est-à-dire, vous savez comment s'appelait l'Espagne dans le langage biblique? L'antique Tarsis. Ouais. C'était véritablement À cette époque, dans le monde connu d'alors, eh bien, les contrées les plus lointaines, il y avait certainement des contrées qui avaient été découvertes certainement vers l'Orient, mais vers l'Occident, il n'y avait plus rien. Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir? Il y avait l'océan Atlantique. Il n'y avait plus rien du tout, on ne connaissait pas encore les Amériques. Alors, pour Paul, dans la tête d'un homme de ce temps, l'Espagne, c'était véritablement le bout du monde, en quelque sorte. Le pays du bout du monde. Aujourd'hui, vous savez, on fait vite le tour du monde. En 24 heures, vous êtes aux antipodes. Et il semble que tout a été découvert, tout a été vu, mais enfin bon, il reste encore certainement beaucoup de choses. Et pour Paul, certainement, dans la même configuration et le même fardeau qu'il avait dans son cœur, comme il voulait convertir les Romains et apporter la grâce de Dieu à ceux de Rome, eh bien lui, il voulait convertir les Ibères, c'est-à-dire les Espagnols de l'époque. Il se disait, eh bien, il y a certainement des âmes. Mais ça rentrait tout à fait dans la mission, dans la perspective que Dieu, finalement, avait appelé ses disciples les uns et les autres. Pourtant, ce sont deux destinations qui sont conformes à la mission. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, il nous est parlé de Paul qui a été choisi. Et c'est Dieu qui appellera Paul de cette manière quand Dieu s'adressera à Ananias de Damas. Il lui dira, cet homme, en parlant de Paul, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Alors, certainement les Romains, les Italiens, les Espagnols, et puis bien d'autres peuples, mais entre autres ceux-là, devant des rois, il servira donc de témoin devant des rois et devant les fils d'Israël. Dans le livre des Actes également, si nous voulons poursuivre, c'est que non seulement il a été choisi, mais il a été envoyé. Et dans Actes chapitre 22, il nous est dit que, où Dieu dit ceci, « Je t'enverrai, va, je t'enverrai au loin vers les nations, je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Et les extrémités de la terre, pour l'époque, c'était justement la lointaine Espagne, entre autres. Il était dans la volonté de Dieu, Paul. Et il avait quelque chose qui brûlait au fond de son cœur. Alors nous allons résumer brièvement. Le cœur de Paul est rempli d'un projet nourri, préparé depuis plusieurs années, comme quelquefois nous-mêmes dans notre cœur. Nous avons des choses qui brûlent. Et je ne parle pas ni de l'Espagne, ni de Rome, mais il peut y avoir sur le plan affectif, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan d'une réalisation, ce pourquoi nous sommes faits, parfois un ministère, ou un service dans l'Église, ou autre chose, et qui brûle comme cela brûlait dans le cœur de Paul, avec la seule pensée de le réaliser un jour. À chaque fois qu'il y pensait, eh bien cela lui procurait, en quelque sorte, un immense bonheur. Parfois, c'est une douleur. Mais je pense que Paul, de la manière dont il l'écrit, eh bien, nous laisse entendre que les choses tardent, mais néanmoins, il y a quelque chose qui brûle. Et pour lui, il le vivait comme quelque chose qui allait arriver à un moment ou à un autre. Et il était impatient de le vivre à ce titre. Je l'ai dit tout à l'heure, Paul était un homme comme les autres. C'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous devons être dépossédés de nos sentiments humains. Que nos sentiments humains soient repris en sous-main par le Saint-Esprit, d'accord. Mais c'est pas pour ça que nous restons, et nous restons des hommes et des femmes. Et Dieu va se servir de nous parce que nous sommes des hommes et des femmes dans ce monde. Mais voilà. Que penser du temps? Que penser des circonstances, du résultat de ce rêve généreux tant espéré, et un rêve si longtemps attendu? C'est ça tout le problème. C'est pas de dire je pense à ceci, j'aimerais ceci, je rêve de ceci, mais c'est le temps qui passe. Ni la durée. Parce qu'entre le moment où il écrit ces choses, il s'est passé 9 ans environ. C'est long, 9 ans. Ni les conditions favorables envisagées ne se sont présentées comme prévues. Et vous savez, dans bien des choses que nous portons dans notre cœur, nous les rêvons, nous les pensons, mais elles ne se réalisent pas comme nous l'avons pensé, rêvé ou prévu. Toute la question est là. Et pour Paul, c'est tout le contraire qui s'est passé. Il y a eu réalisation, certes, mais quel itinéraire a-t-il dû suivre? Et cet itinéraire, il n'était pas seulement la conçu sur la terre, mais il était conçu en haut, avec la permission de Dieu. On pourrait parler dans ce voyage vers Rome ou vers l'Espagne du parcours du combattant. Et c'est ce que je voudrais mettre devant nous ce matin pour que nous y réfléchissions quelque peu. C'est là où le rêve est tout autre que la réalité. Mais une chose qui est importante, c'est que ça se réalise. Vous ne trouvez pas? Et quelle leçon de patience! Quelle leçon d'espérance! Quelle leçon de dépendance et de foi tirons-nous justement de ces exemples? C'est aussi là où tout ce que nous vivons de grand, de beau et de haut, parce que nous avons cela aussi dans notre personnalité. Le chrétien est un homme qui doit aspirer à des grandes choses, qui doit aspirer à des belles choses, à des choses nobles, surtout quand il s'agit de l'Évangile. Et même pour notre vie, tout en restant humble et modeste. Mais néanmoins, Dieu est grand, Dieu aime le beau, Dieu aime ce qui est élevé et noble, et nous le portons aussi dans notre cœur, mais nous nous apercevons que finalement, parce que c'est grand, parce que c'est beau et parce que c'est haut, eh bien là, ça dépasse souvent ce que nous pouvons concevoir. Et c'est souvent nous-mêmes, nous sommes en deçà de ce que nous atteignons, mais néanmoins, avec la grâce de Dieu, nous y arrivons quand même. C'est là enfin où l'homme connaît la déception. La déception non pas de ne pas y arriver, parce qu'il y arrivera, mais des circonstances qui nous amènent à ce que Dieu veut. C'est là où nous passons par l'école du désappointement, c'est là où nous passons souvent par cette instruction qui est amère lorsque nous attendons, et c'est l'histoire d'un Paul, même apôtre, de Jésus-Christ. Alors si lui l'a vécu, nous allons le vivre aussi. Si un Moïse a vécu 40 ans dans le désert de préparation, nous aussi nous aurons des temps de préparation. Mais nous l'atteindrons. Vous vous souvenez de l'histoire de Jacob? Le bâton de Jacob. Il a fallu attendre la fin de sa vie. Enfin, je ne voudrais pas vous décourager. Mais pour atteindre finalement ce à quoi Dieu voulait le destiner. Mais lui, c'est un problème de caractère, un problème de tempérament. Mais en ce qui concerne Paul, c'est autre chose. On le sait, Paul s'est rendu à Rome. Ouais. C'est paradoxal parce qu'il aurait pu être le premier pape et on en a mis un autre qui n'y a jamais été. Enfin, bon, je retire ce que j'ai dit. Il a enfin réalisé un grand rêve, mais il l'a réalisé non pas en homme libre, mais en prisonnier. C'est ça la grande question qui se pose dans notre méditation. En prisonnier, lui qui priait pour la liberté de l'Évangile. Alors il est allé à Rome, mais il est allé à Rome les chaînes dans les pieds. Et ça, c'est difficile. Ça laisse véritablement pensif, lui qui priait donc pour cette liberté. Quant à l'Espagne, alors on ne sait pas. On a regardé un petit peu dans les commentaires et puis dans toutes sortes de choses, on ne sait pas si Paul a été en Espagne. Je ne pourrais pas vous dire ce matin. Mais on sait qu'il était à Rome en tous les cas. Folle espérance d'aller jusqu'aux extrémités de la terre ou jusqu'aux extrémités de ce que nous pensons au fond de notre vie, de notre cœur. Extrémité de ce que Dieu a prévu pour nous, parce qu'il y a des points très forts et très hauts qui sont pour chacune de notre vie. Parce que Dieu est un Dieu qui a de nobles ambitions. Nous, on en a peut-être quelquefois des médiocres, mais lui, il en a des nobles. Alors, il y avait une promesse et il vivait sur la promesse. Et ça, c'est justement ce que nous avons besoin. La promesse, c'est la parole de Dieu, au fond de notre cœur. Ne nous fabriquons pas des promesses, mais les promesses sont là par le Saint-Esprit. Il y a certainement dans le cœur de chacun où Dieu a déposé des promesses. Et ça, il faut nous en souvenir. Alors a-t-il vu un jour le pays du bout du monde? Je ne pourrais pas répondre. Notre vie est pleine d'espérance, ou d'expériences plutôt similaires, et à tous les âges. Et si je vous pose une question ce matin, que sont devenus nos rêves d'enfants ou d'adolescents? En tant que jeunes gens, en tant que jeunes filles, on a proclamé « Je serai ». Je ferai. Et puis finalement, la vie s'est chargée de nous accompagner. Alors il y a des choses qui sont réalisées, c'est vrai. Mais il y a des choses qui ne se sont pas réalisées non plus. Nos rêves d'enfant. Mais quand on est adulte, on ne peut pas rêver, on ne peut pas rester avec des rêves d'enfant, c'est pas possible. Il faut grandir, surtout quand on est chrétien. Projet audacieux de la jeunesse, que reste-t-il? Parfois, plus pénible lorsque nous avons grandi et lorsque nous avions vieilli, nos objectifs non atteints ou tout simplement inachevés de notre vie d'homme, et on se dit « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» C'était bien différent de ce que j'avais espéré. Alors, c'est là où il faut compter sur le Seigneur. Parce que je vous le rappelle, Dieu est capable de changer les choses. On n'y passera peut-être pas par le chemin par lequel nous avons conçu et nous avons tracé notre route, notre itinéraire, mais ça ne veut pas dire que Dieu abdique dans cela. Il faut que nous soyons conscients que Dieu nous a donné une vie. Ça, nous le savons. Mais que nous soyons conscients qu'il nous a créés pour quelque chose de particulier. Et ça, c'est cette notion qui est importante. Je suis parce que je ne suis pas en raison de moi-même, de ma volonté, de ma ténacité, de ma détermination, mais je le suis parce que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur. Et ça, c'est difficile à... C'est très imprécis, hein, on ne peut pas affirmer les choses comme ça. Hein, et c'est très, très personnel, c'est très subjectif. Il y a beaucoup de souffrance dans ce domaine pour comprendre quelle est la pensée et la volonté du Seigneur. Étrange destinée des hommes de foi, particulièrement pour nous. La non-réalisation des choses. Un maillon dans la longue chaîne où d'autres certainement en profiteront. Peut-être que nous allons rentrer dans l'aventure de Dieu. Nous sommes peut-être des semeurs aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui vont moissonner. On aurait dit j'aurais aimé être moissonneur. Parce que c'est quand même formidable la moisson. Hein, vous vous rendez compte, vous en revenez plein les bras. Hein. Et puis les semeurs, ce sont ceux qui pleurent. Et on se dit, mais Seigneur, moi j'aurais tant aimé être un moissonneur et puis récolter toutes tes promesses. C'est formidable, c'est enthousiasmant. Mais il y a un autre danger à ça. Mais pourtant, Dieu veut que je sois un semeur, que je sois dans un terrain et que je vais ramasser les pierres pour les mettre en dehors du champ. Il va falloir que je creuse et que je creuse continuellement. Il va falloir que, je nourrisse la terre en quelque sorte pour qu'un jour elle produise. Et c'est même pas moi qui vais le voir. Mais c'est ce que nous dit le livre des Hébreux au chapitre 11. Regardez ce qu'il nous est dit, parce que ça c'est le travail de la foi. Dans Hébreux, il nous est bien parlé de ce travail de nourrissement en quelque sorte, mais néanmoins ce n'est pas perdu devant Dieu. Au chapitre 11 et au verset 13, il nous est dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, vous rendez compte, les hommes de l'Ancien Testament, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Et peut-être que notre rôle ici, notre rôle dans notre pays, notre rôle à Saint-Nazaire ou à Redon, eh bien peut-être que nous sommes des enleveurs de pierres. Nous transpirons. Et puis il y en a un autre qui va passer et puis qui va avoir le bénéfice de tout cela. Mais nous sommes dans le même terrain et nous servons le même Dieu. Ne nous décourageons pas. Ça, il faut le dire parce que l'Église a tellement été stimulée à ne voir que des effets immédiats. Et ça, c'est faux, mes frères et sœurs. C'est vrai qu'il y a des choses comme ça. Mais ce n'est pas le temps dans lequel nous vivons. Ce serait plutôt le contraire, hein? Est-ce que nous sommes prêts à l'accepter, cela? Paul avait ambitionné là à Rome et en Espagne, puis finalement y était, mais ça n'a pas été du tout de la même manière dont il pensait. La douleur des espoirs déçus est réelle, et je crois que l'Église souffre aujourd'hui. Ouais. Elle souffre parce que on voit que les églises, nos églises se vident. Oh, n'ayons pas peur des mots, on va quand même pas dire le contraire. Il faut regarder la réalité en face, il faut être pragmatique, il faut être pratique. Et on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que l'on peut faire devant tout cela? Mais pourtant, Dieu ne nous a jamais empêchés d'espérer, et même de rêver, parce que vous savez, quelquefois le rêve, ça fait vivre. C'est vrai. L'imagination, il faut qu'elle soit reprise en sous-main par le Saint-Esprit, naturellement, parce qu'autrement on divague. Mais là, on peut aller très loin. Mais néanmoins, Dieu a mis cela dans le cœur de l'homme, espérer, et puis pourquoi pas rêver. C'est un moteur puissant. Et moi, je crois que Paul, un homme comme Paul, qui était un homme spirituel, un géant de la foi, eh bien, espérait, et il rêvait aussi. Il faut que je voie. Il faut que j'aille. Quand j'aurai réglé mes affaires ici, eh bien, j'irai vers vous. Je ferai ceci. Et vous savez que ça durait 9 ans, hein? Mais on va voir de comment il a passé ces 9 années et dans quelles conditions. Il était à l'ombre, hein, je tiens à vous le dire. On va voir. Je voudrais citer ce poème, si vous me permettez. Moi, j'aime bien les poèmes. Me semble-t-il, il est écrit par un chrétien, où il est dit ceci, écoutez bien, « Nos vies ressemblent à une harpe, aux cordes dorées sur laquelle nous avons imaginé jouer l'harmonie de la vie. » C'est vrai, c'est joli l'harpe, hein. C'est cristallin, c'est magnifique. Et comme tout ce qui est beau dans le monde, mais qui, néanmoins, ce monde est un monde laid, parce qu'il faut bien le reconnaître, eh bien ça casse, les cordes cassent. et reste parfois une seule et unique corde à notre vie ou à notre harpe, c'est celle de notre foi. Ouais. Celle de la foi qui permet d'espérer là où tout s'écroule. C'est ça la beauté. C'est ça ce que Dieu met dans notre cœur. Où il y a tant de gens qui se découragent, et parfois même des chrétiens où il leur reste une corde, mais ils oublient que cette corde, c'est la corde de la foi. Et c'est elle qui joue le son de Dieu, qui joue la tonalité de Dieu. Là, d'espérer où tout s'écroule autour de nous. Je dirais que c'est la seule, l'unique et dernière note d'espérance. Et heureusement que nous avons cette espérance dans le Seigneur. C'est bien la force stimulante de la foi qui nous permet de dépasser les écueils dressés spécialement pour nous faire trébucher, et il y en a des écueils. Là aussi, il y en a dans notre vie. La vie de Paul a été un tourbillon incessant de déception. Il faut bien le reconnaître. À chaque pas, il a vu se faire et se défaire ce pour quoi il vivait. Il a eu une vie contestée, une vie disputée. Ses œuvres ont été démolies. Je pense aux judaïsants qui le suivaient continuellement et qui démontaient son message derrière lui. Ce sont des choses qui nous tiennent le plus à cœur, qui nous font le plus de mal. C'est vrai, hein, ça. Parce que les choses qui nous sont indifférentes, on se dit, bon ben, on va les changer et puis on va passer à autre chose. Mais il y a toujours quelque chose dans notre vie qui nous fait particulièrement cette corde qui fait mal. Maintenant, nous allons apprendre, si vous me le permettez, par l'exemple de Paul, qu'entre un projet, un désir et sa réalisation, le vrai maître, ce sont les circonstances. Oui. Ce sont les circonstances qui décident, sans oublier qu'au-dessus des circonstances, il y a Dieu et ses desseins bienveillants, et je dirais ses desseins orientés. Parce que nous ne savons pas pourquoi, lui sait pourquoi. Pourquoi telle et telle chose? Pourquoi telle et telle conduite, telle ou telle direction? Lui sait. Mais le mot circonstance est important. Tout dépend du temps et des circonstances. Vous connaissez cette formule? Je crois que c'est dans le livre d'Esther ou dans... Non? Vous me le direz, hein, j'ai plus tellement la mémoire, mais c'est un texte de la Bible où il nous est dit que tout dépend du temps et des circonstances. Et c'est vrai. Un fruit qui n'est pas mûr, un fruit qui est trop mûr, Dieu nous donnera quand il va être prêt. Mais quelquefois, nous ne savons pas attendre. Ou quelquefois, nous laissons passer l'occasion. Comme Paul, en tant qu'enfant de Dieu, nous formons des projets louables. Et il écrivait alors aux chrétiens de Rome cette parole, « Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, » je crois qu'il était à Éphèse à ce moment-là, ignorant l'avenir, beaucoup d'éléments inattendus allaient précisément justement le retenir et l'entraîner sur une voie complètement opposée. Lui, il pensait qu'il avait fini son travail à Éphèse. Et il écrivait aux Romains en disant, bien, je vais bientôt aller vous voir. Mais finalement, eh bien, les circonstances ont décidé autre chose, puis il s'est retrouvé dans une autre situation. Des événements imprévisibles l'ont pris en charge malgré tout ce qu'il a pu concevoir pour le mener à Rome. Il y a été à Rome. Il a atteint le but, mais pas de la manière dont il avait pensé. Rappelons-nous cette parole prophétique de Jésus à Pierre dans l'évangile de Jean au chapitre 21 quand il est dit ceci. Je le rappelle pour mémoire. « En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. » C'est vrai, avec la jeunesse, l'énergie, on n'a pas besoin des autres. Mais, Jésus lui précise, mais quand tu seras vieux, et là nous avons besoin, parfois, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Ça, c'était une parole de Jésus à Pierre, mais c'était aussi une parole de Jésus, de l'Esprit à Paul, mais c'est une parole pour chacun d'entre nous. Ceux qui ont de l'âge au milieu de nous, aujourd'hui, en tant que frères et sœurs, vous savez ce qu'il en est de la vie, hein ? Ouais, peut-être que je suis encore un peu jeune. Mais pour ceux qui ont atteint finalement, eh bien là, une certaine maturité dans l'existence où la vie a passé, ils savent ce que ça veut dire, cette parole de Jésus. Un autre te mènera où tu ne veux pas aller. Aller où on ne veut pas, et pourtant le vrai chemin, c'est quelquefois le chemin, parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu veut. Le cheminement mystérieux de beaucoup de vrais croyants réalise, sans que nous le sachions, et souvent naturellement à notre insu, les plans de Dieu, et seulement parce qu'il est mystérieux et tellement contraire à ce que nous pensons. Et je rappelle cette parole du prophète Ésaïe, « Mes pensées ne sont pas vos pensées », ou encore dans Proverbes chapitre 20 et verset 24, quand il est dit ceci, et je l'ai expérimenté personnellement au début de ma conversion, « C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voix ?» Et ça, je peux vous dire que ce verset a été marqué en lettres de feu dans ma vie, il y a 30 et quelques années maintenant, pour me montrer que Dieu avait un plan qui était tout à fait différent de celui que j'avais conçu à l'époque. Et vous savez, c'était ça aussi, c'est ça. Il ne nous est pas donné de comprendre sur le moment, mais seulement plus tard, quelquefois beaucoup plus tard. C'est Joseph en Égypte, c'est David quand il est fugitif, qui lui ne verra pas Rome mais verra Jérusalem en tant que roi, hein. Ou Joseph dans le projet que Dieu avait fait pour qu'il devienne le second de l'Empire d'Égypte. Plus tard, toujours plus tard. Mais est-ce que nous sommes capables d'accepter ces temps de Dieu, ces périodes où, eh bien là, nous sommes en stand-by, où nous devons attendre tout simplement. Pour revenir à Paul, pouvait-il se douter qu'en quittant Éphèse, puisque c'est là où il se trouvait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'était la fin de sa mission dans cette ville, déterminé à se rendre en Espagne, via Rome, après s'être acquitté des dons destinés aux chrétiens de Judée, de ce qu'il allait lui arriver? Non, je crois pas. Parce que ça, c'est le cheminement qui nous est rappelé dans l'histoire évangélique. Paul, quittant Éphèse, portant des dons à Jérusalem. Et pourtant, un homme est intervenu dans sa ville, il s'appelait Agabus. Vous connaissez l'histoire du prophète Agabus, qui lui dira, eh bien cet homme sera emmené lié. Il avait pris sa ceinture, il l'avait ficelé. Et tous les amis de Paul lui ont dit, ne va pas à Jérusalem, il va t'arriver malheur. Et Paul a dit, non, j'irai quand même, parce que j'ai quelque chose à y faire. Et c'est parce qu'il est allé à Rome que les choses aussi, il est allé à Jérusalem, que les choses... Et Dieu ne se trompe pas lorsqu'il dit les choses. Phénomène à mentionner, troublant, rencontré fréquemment chez ceux qui veulent faire la volonté de Dieu, parce que nous voulons faire la volonté de Dieu. Mais peut-être pas forcément comme nous l'entendons. Et c'est souvent une part de souffrance, au risque de tout perdre. Et là, c'est là où Paul va comprendre ce que veut dire justement cette volonté de Dieu, l'acharnement du mal sur la route de Rome, les tribulations, l'opiniâtreté de l'opposition des hommes qui va être terrible contre lui, l'opposition de la nature et l'opposition diabolique qu'il va rencontrer sur la route de Rome. J'aimerais faire rapidement un exercice de chronologie de la vie de Paul, très rapidement. Nous allons partir de cette formule sur la route de Rome. Qu'est-ce qui s'est passé sur la route de Rome? Paul y a rencontré des ennemis mortels qui l'attendaient de pied ferme à Jérusalem. Vous connaissez l'histoire, vous le relirez dans le livre des Actes des Apôtres. Sur la route de Rome, il y avait aussi une foule chauffée à blanc, il ne faut pas l'oublier, pour lyncher l'apôtre. Et il a été arraché, nous pouvons dire in extremis, par le tribun Lycia, qui l'a retiré à ce moment-là pour le mettre à l'abri. Mais il était quand même arrêté et il était battu. Sur la route de Rome, il y avait aussi cette meute d'accusateurs perfides, et non pas n'importe lesquels, c'était les honorables notoriétés, de Jérusalem religieuse. Et là, Paul pouvait se dire, mais il n'y a pas de justice. Sur la route de Rome, il y avait aussi cette conspiration visant à assassiner Paul, mais qui a été détournée providentiellement par Dieu en envoyant le neveu de Paul. Vous connaissez l'histoire? C'est un rappel que je suis en train de faire, je suis en train de lire la Bible en diagonale en ce moment, mais pour montrer un petit peu tout ce qu'il y avait sur cette route. Et Paul est resté dans le calme de la foi, il a fait confiance. Sur la route de Rome, il y a cette rencontre avec l'indésirable procurateur Félix. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'était Félix. Ignoble Félix. Un juge inique et immoral, un homme vénal qui aimait par-dessus tout l'argent et ses conséquences, parce qu'il demandait à Paul, je veux maintenant que tu viennes me voir, et il espérait que Paul lui donne de l'argent. Vous vous rendez compte pour un juge? Et ses conséquences en vie gâchée et du temps perdu, ça lui a valu de tomber sur un homme comme ça, ça lui a valu 2 ans de prison à Césarée. Vous vous rendez compte pour en avoir rien fait? C'est sur la route de Rome, ça encore. l'oubli est l'injustice la plus révoltante. Il nous est dit dans un texte biblique, 2 ans s'écoulèrent ainsi. Et dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison, vous vous rendez compte? Dans le désir de plaire aux Juifs, il le laissait en prison. Un homme qui avait une mission d'envergure, de gagner le monde, de faire connaître l'Évangile, va moisir à l'ombre pendant 2 ans et tout ça parce que la fantaisie, le caprice d'un juge inique, c'est sur la route de Rome. Comme Hervé Bazin l'a écrit, La tête contre les murs, hein. Je ne sais pas si vous avez lu le livre, La tête contre les murs. À quoi pouvait penser un prisonnier, ou le prisonnier Paul, qui était innocent et qui était en train de moisir en attendant? L'œuvre était en suspension et lui était impuissant. Les seules promesses qu'il pouvait se souvenir dans son cachot pouvaient susciter du doute, un petit peu à la manière de Jean-Baptiste. Est-ce celui que nous devons attendre, ou est-ce un autre? Parce que quand on est un petit peu en stationnement comme ça, on se dit « Mais pourquoi, Seigneur ?» Et quelquefois, nous sommes en stationnement dans notre vie, dans nos espérances, qui brûlent au fond de notre cœur. Et Dieu ne nous répond pas, et nous disons à ce moment-là « Mais pourquoi, Seigneur ?» Et pendant ce temps-là, le doute commence à prendre le pas sur notre foi. Eh oui. Rome et l'Espagne, quel espoir lui reste-t-il pour y parvenir lorsque nous avons une porte de cachot qui nous prive de la liberté? Eh bien, il y a un espoir qui s'appelle Dieu. Même au fond de nos prisons, même dans nos doutes, même dans nos souffrances, une condition certes douloureuse, mais c'est l'acceptation silencieuse de notre état en attendant que les choses changent. Vous vous souvenez, Joseph? Vous connaissez David aussi, pendant 15 ans fugitif, et puis d'autres, et d'autres, et d'autres, et des milliers, et des millions, et nous peut-être ce matin. Où nous disons, mais Seigneur, ma prison n'a pas de barreaux, elle n'a pas de porte de fer, je ne suis pas là dans un cachot, mais c'est quand même comme ça ressemble. Acceptation silencieuse de notre état. Beaucoup de patience et attendre que la porte d'entrée de la prison devienne rapidement la porte de sortie. Parce qu'il y a toujours une porte d'entrée, mais il y a toujours une porte de sortie avec le Seigneur. Vous y croyez? Ah oui! Moi, je crois que il y a, c'est vrai dans ces situations, une porte d'entrée, mais il y a toujours quelque chose. Et puis Paul va faire appel à César, et nous reprenons sur la route de Rome. Au plus sombre, une lueur apparaît après 2 ans, nous l'avons lu, Festus va remplacer Félix. Et Festus, c'est aussi un procurateur, mais c'est un autre homme. Paul va passer devant le jugement, devant cet homme, mais devant le roi Agrippa. Et après 2 ans de prison, son innocence va être reconnue. Et ce qui nous montre les insondables desseins de Dieu. Et à ce moment-là, à partir du moment où il va avoir son innocence reconnue, eh bien, néanmoins, il ne va pas pouvoir s'en tirer comme ça. Il va être obligé de faire appel à César. Parce qu'il sait qu'il est poursuivi à l'extérieur. Et pour fuir les meurtriers qui ne l'ont pas oublié, même si ça fait 2 ans qu'il est en prison, ils l'attendent à la sortie lui aussi, hein. Eux aussi. Alors il est obligé de faire appel à César, et aussitôt que, à ce moment-là, la décision est prise, eh bien, il va embarquer immédiatement pour Rome. Eh oui, mais il avait pensé d'y aller comme ça, le pauvre. Et puis quand les hommes cessent de s'inquiéter, voilà que la nature s'en mêle, précisément, comme fait exprès. Il est débarrassé de ses ennemis sur place, les autorités qui l'ont méprisé, qui l'ont jeté, lui, innocent, en prison, puis tous ceux qui sont en gravité autour de lui en attendant de pouvoir l'assassiner. Et ça, c'est la nature. Et nous reprenons la route de Rome. Sur la route de Rome, il y a la tempête. L'entêtement des marins, du pilote. Et il y a le naufrage, mais ils sont tous sauvés, néanmoins. Parce qu'il y a la main de Dieu dans tout cela. Et les voilà qui se retrouvent comme des misérables en plein hiver sur une île qui s'appelle Malte. C'est encore la route de Rome. Et sur la route de Rome, à Malte, il y a la morsure de la vipère. C'est terrible, hein, ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est pourtant la vérité biblique. Eh oui, tout ça, Paul l'a vécu. La morsure de la vipère. Et là, on va prononcer un arrêt de mort sans appel. Et les gens vont dire tout autour de Paul, mais c'est un criminel, c'est un meurtrier, il doit mourir, regardez. Il a échappé à tout, mais maintenant c'est une vipère. qui va le mordre et qui va l'emporter. Et puis enfin Rome, déjà Malte on s'approchait, mais il était en grand danger de mort avec cette histoire. Rome. Je me demande avec quels yeux et quel état d'esprit et de cœur Paul a vu la ville impériale quand on a passé par tout ça. Attendez, c'est pas fini. S'en est passé d'autres après. Là, c'est la moitié du voyage. Dans quel état d'esprit, avec quels yeux il a pu voir la ville impériale? Avait-elle la beauté de son rêve? Et les choses que nous réalisons, frères et sœurs, ont-ils la beauté de nos rêves? Nous avons rêvé souvent doré, et c'est souvent un peu plus pâle. Vous avez remarqué? Quand nous sommes jeunes, nous rêvons beaucoup, hein, doré, avec beaucoup de... Elle est une nuage. Puis même quelquefois plus adulte, hein, naturellement. Ça dépend des tempéraments. Mais lorsque nous arrivons à quelque chose, est-ce que nous pouvons dire que finalement ça ressemble à ce que nous avons pensé? Vous êtes peut-être probablement parti en voyage pour des choses que vous avez peut-être préparées depuis de longue date. Et puis, vous l'avez vécu, vous l'avez attendu, vous l'avez préparé, vous avez regardé peut-être des cartes et toutes sortes de choses. Et puis quand vous arrivez, vous dites « Ah oui, c'est ça ?» Enfin bon, non, on va dire « Ah oui, c'est beau !» Mais finalement, tout passe. Tout est comme ça, c'est ça la vie. Hein, vous ne trouvez pas? Vous voyez un beau gâteau? C'est la fête des pères. C'est pour rappeler à ma femme. Non, mais simplement que quelquefois nos rêves sont beaucoup plus hauts que ce que nous réalisons finalement. Entre ce que nous imaginons et ce que nous vivons, ce que nous réalisons, et puis une fois que nous sommes dans les choses, eh bien, ça rentre dans la normalité, ça rentre dans l'ordinaire, et on se dit oui, mais c'est ça la vie de toute façon. C'est comme ça. C'est vrai pour la vie professionnelle, c'est vrai pour le mariage, c'est vrai pour tant d'autres choses, même les plus belles. Une fois que nous les avons réalisées, on se dit, ben oui, c'est ça. C'est bien, de toute façon. Et moi, je bénis le Seigneur que ce soit comme ça, quand même. Parce qu'on n'est pas des extraterrestres. Il faut rester, quand même, dans la réalité des choses. Et que Dieu nous les donne, c'est formidable, quand même. Je dis merci, Seigneur. Bon, mes rêves, c'est une chose, mais la réalité tout autre, mes seigneurs. Quand même, tu es bon, tu es merveilleux. Alors, enfin, Rome. Mais attention, ce n'est pas fini pour autant, je voudrais quand même le signaler. Voici les lenteurs de la justice impériale qui vont se mettre en route. Et encore 2 ans de procédure avant jugement. Eh oui. Remarquez, la justice n'a pas changé, hein. Vous avez remarqué? Quand il y a des gens qui se retrouvent en procès pendant 5, 10 ans, 20 ans, il y a des choses que quelquefois on se dit, mais Seigneur, quel prix ! Les lenteurs de la justice de César. 2 ans de procédure pour reconnaître qu'il est innocent une deuxième fois. Ah ça c'est fâcheux, hein. C'est terrible quand même. Vous savez, Jésus avait raison de dire, mais heureux vous qui souffrez à cause de la justice. Parce que c'est quelque chose qui mine, hein. C'est quelque chose qui détruit ça. Quand vous savez que vous êtes de bon droit et que finalement vous êtes torpillé de tous les côtés et puis qu'en plus vous réclamez la justice et que la justice ne se fait pas, ben c'est ce que Jésus a voulu mettre en parabole avec la pauvre veuve, en quelque sorte. Alors 2 ans, alors si j'ai bien compris et si je sais compter, 2 ans de prison à Césarée, 2 ans supplémentaires de prison à Jérusalem alors qu'il est innocent, ça fait 4 ans de prison, ça. C'est déjà pas mal. Aimer Dieu de tout son cœur. Il faut aimer Dieu de tout son cœur. Eh bien, le tableau qui nous est montré, c'est ce prix à payer, finalement. Ouais. Dans notre vie de chrétien, c'est le prix à payer. Dans 2 Corinthiens, j'aimerais lire ce texte, parce qu'il résume un petit peu quand même la vie de Paul. Dans ce sens, 2 Corinthiens, au chapitre 11 ou 12, je vais vous donner les coordonnées. Chapitre 11, versets 23 à 28. Écoutez bien. « Il nous est dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis bien plus encore, par les travaux bien sûr, par les coups bien sûr, par les emprisonnements bien sûr. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, ça fait 39, hein. C'est déjà, faut déjà les prendre. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif et au jeûne, multiplié au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Je dis, pauvre Paul. Et vous savez que c'est grâce à des hommes comme ça qu'aujourd'hui nous pouvons être libres et que nous pouvons avoir la Bible entre nos mains et la méditer ce matin, en 2005. Ouais. Je dis merci Seigneur de ce qu'il y ait des hommes qui ont passé avant nous et qui ont connu cette école. C'est vrai, sur la route de Rome. Cette route de Rome est bienvenue jusqu'à Saint-Nazaire. Eh oui, parce qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Des hommes d'une grande foi et d'une grande autorité spirituelle. Mais quel prix ! Quel prix, Seigneur ! Aimer Dieu de tout son cœur. Prix de la fidélité et de la vérité. Je conclus simplement ce matin. Parfois, nous atteignons le but. Parfois jamais, dans certaines choses. Vous vous souvenez du texte que nous avons lu dans l'Hébreu ? Dans l'Hébreu, il nous est dit, « Ils les ont vus et salués de loin. Je serai peut-être moissonneur, je suis certainement aujourd'hui semeur. » Ceux qui portent avec des pleurs la semence reviendront avec des chants d'allégresse. Et le Seigneur le sait. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que vous ne vous sentez pas abandonnés. Ne vous sentez pas délaissé. Ce matin, c'est un message d'espérance que Dieu nous donne. Dans les moments que peut-être que je ne connais pas, mais que vous traversez, peut-être avez-vous pleuré cette semaine. Et ce n'est pas la première semaine ou les premiers jours que vous pleurez. Vous êtes peut-être dans une prison à Césarée ou à Rome, mais ne vous découragez pas. Mais il y a une leçon magistrale à tirer de tout cela. La persévérance, la souplesse d'esprit, comme nous en avons parlé, tiens, il y a une quinzaine de jours. Acquérir la faculté d'amortir les chocs inévitables de l'existence. Et il y en a des chocs. Ouais. Les contrariétés, les déboires de la vie et les autres dépits de l'existence. Jamais perdre espoir et jamais perdre courage. Seigneur, c'est ma prière, donne-moi. Donne-moi ce courage et donne-moi cette force pour chacun d'entre nous. Je prie pour que l'Église puisse avoir cette force et ce courage. Après tant et tant de tribulations et de contretemps, quand il nous semble que nous ne parviendrons jamais au but, Dieu permet, écoutez bien, je vais finir là-dessus, une éclaircie, une embellie. Une éclaircie, une embellie inattendue, la réalisation. Dans Actes chapitre 28, je lis le texte au verset 15, il est dit ceci. Écoutez bien, parce que ce sont certainement des paroles très fortes quand on connaît le cheminement de Paul. Il nous est dit ceci, 28, 15, de Rome. Paul allait, lui, à Rome, mais de Rome. De Rome vinrent à notre rencontre. Et ça, je trouve que c'est un des textes les plus beaux de la Bible. De Rome vint à notre rencontre des frères qui avaient entendu parler de nous. Alors Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Je m'imagine l'apôtre Paul, lorsqu'il a vu ces premiers chrétiens auxquels il avait certainement adressé des lettres, mais qu'il ne le connaissait pas de visage, il ne se connaissait pas les uns les autres. Mais quand il a vu ces premiers chrétiens qui se sont approchés, eux, ils ont fait un bout du voyage pour accueillir Paul. Dans quel état Paul se trouvait ? Alors à ce moment-là, Paul a dû tomber sur ses genoux et invoquer le nom du Seigneur en le bénissant, en l'adorant, en disant « Mais Seigneur, tu es merveilleux, tu es magnifique !» Extraordinaire, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a repris courage. Mes frères et sœurs, il y a des frères et des sœurs qui vont venir vers vous. moi je le dis. Il y a quelque chose où Dieu va s'approcher de vous pour vous faire reprendre courage pour aller jusqu'à Rome, parce qu'il n'était pas encore à Rome là. Pour atteindre le but, pour atteindre ce à quoi vous êtes appelé, ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je ne boude pas le plaisir de relire. De Rome vinrent à notre rencontre des frères qui avaient entendu parler de nous. Alors Paul, en les voyant, rendit grâce et il reprit courage. Si je me permets d'adresser au nom de tous, pour moi-même et au nom de tous, cette prière, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur. Je veux t'aimer de tout mon cœur pour que mes déceptions ne soient jamais facteurs d'aigreur et de ressentiment et que je m'arrête avant d'avoir atteint Rome. Voyez ce que je dis. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur pour que mes contrariétés ne soient pas l'occasion de me remplir, de me replier sur moi-même et de provoquer l'asphyxie de ma vie spirituelle. Parce que ça, c'est aussi un danger. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur pour que je ne tombe jamais dans un comportement fataliste et figer mon existence, parce qu'il y a malheureusement des frères et des sœurs qui se sont arrêtés, figés un petit peu comme la statue de Sel, la femme de Lot, tombés dans un comportement fataliste, Inch'Allah, c'est comme ça qu'on dit, Kader ? Oui. Ah ben, je parle un petit peu arabe, enfin bon, ben vous l'avez vu d'ailleurs. Et je termine par le rendez-vous que nous nous sommes donné il y a quelques semaines dans le livre de l'Apocalypse. Le titre de ce message était « À celui qui sera vainqueur ». Vous vous souvenez ? Livre de l'Apocalypse. « À celui qui sera vainqueur, Dieu promet le couronnement céleste. » Mais il nous promet aussi la réalisation de nos plus grandes espérances. C'est vrai. Et qu'est-il advenu du projet si cher de Paul ? D'aller prêcher l'évangile à Rome. Est-ce qu'il a vu l'Espagne? Je ne sais pas, mais toujours est-il, en tous les cas, il était à Rome. Et dans Actes chapitre, parce que je terminerai là-dessus, chapitre 28, versets 30 à 31, il nous est dit que Paul a attendu 2 ans, il était en prison, mais néanmoins, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et qu'est-ce qu'il a dit ? Sans obstacle. Et ça, c'est formidable. C'est que c'est un homme qui a souffert sur la route de Rome, mais quand il est arrivé à Rome, il avait encore les chaînes, il avait des soldats qui le tenaient. Vous lirez le texte dans le livre des Actes. Il était surveillé par des soldats. Mais néanmoins, je lis ceci, c'est qu'il a réalisé tout à fait ce que Dieu voulait pour lui, en toute liberté et sans obstacle. Et il y a des moments où nous avons passé. Il y a des montagnes qui ont été franchies, il y a des barrières qui se sont écroulées, il y a des Jérichos qui se sont réduits en poussière. Pas par mes forces, par vos forces, mais parce que Dieu est intervenu. Et c'est ce que Dieu veut faire aussi dans votre vie, devant les Jérichos qui s'élèvent, devant les montagnes dont vous apercevez à peine le sommet. Mais néanmoins, après avoir passé sur la route de Rome, il y a beaucoup de choses qui ont été apprises, beaucoup acquises en toute liberté, sans obstacle. Je ne sais pas grand-chose. Mais au moins, je sais cela. Je ne sais pas grand-chose, mais au moins, je sais cela. Un jour, peut-être, Rome. Un jour, peut-être, je dois dire ceci. Seigneur, c'est toi qui as mes destinées entre tes mains. C'est toi qui sais exactement ce qu'il me faut. Alors, un jour, peut-être, si Dieu le veut, nous ferons ceci et nous ferons cela. Mais en attendant, nous voulons bénir le Seigneur. Parce qu'il sait ce qu'il faut et il connaît le meilleur pour nous. Et ce matin, frères et sœurs, comme antidote à nos découragements, à nos souffrances, à nos peines, à nos attentes, à nos espérances qui fugitives, alors à ce moment-là, je veux penser, je veux dire, Seigneur, je veux me réjouir. Comme Habacuc, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. C'est lui qui me procure la joie. Et en tous les cas, en attendant, je veux vivre. Et je veux vivre non pas d'une manière médiocre et négative, je veux vivre en m'appuyant sur le Seigneur qui, par son Saint-Esprit, va me donner la force de Paul d'attendre sa grâce et sa délivrance, parce que sa grâce et sa délivrance ne manqueront jamais. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que cette parole soit un enrichissement. Qu'elle soit, eh bien là, quelque chose qui va vous propulser encore en avant, parce que le Seigneur ne vous oublie pas, comme il n'a pas oublié Paul, sur la route de Rome. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ta fidélité et ton amour. Nous avons, Seigneur, c'est vrai, notre chemin de Damas, comme Paul l'a eu, mais, Seigneur, ça c'était notre conversion. Mais nous avons aussi notre route de Rome. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce que je n'ai pas tout compris. Et je suis loin d'avoir tout compris. Mais une chose que je sais, Seigneur, c'est que tu continues à aimer tes enfants. Ce que je sais, c'est que, comme Paul le pourra l'écrire, dans Romains au chapitre 8, que ni la mort, ni la vie, ni l'épée, ni la faim, ni la nullité ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et je te rends grâce et je te remercie, Seigneur, malgré mes problèmes, mes difficultés, malgré, Seigneur, en effet, Père éternel, ce que j'attends, ce que je ressens au fond de mon cœur, ce que j'entrevois dans le brouillard et dans le lointain. Néanmoins, Seigneur, une chose que je sais pour aujourd'hui dans l'heure qui m'appartient, c'est que je veux te bénir, je veux te rendre grâce, et je sais, Seigneur, que tu ne me lâcheras jamais la main. Tu connais mes besoins, tu connais nos besoins, en effet, Seigneur, existentiels, qui passent, Seigneur, par un travail, qui passent, Seigneur, par besoin économique, besoin d'argent, besoin de se réaliser dans notre vie, de faire quelque chose. Besoin, Seigneur, d'avoir un compagnon ou une compagne, d'avoir véritablement, Père éternel, eh bien, Seigneur, là, des perspectives qui sont des perspectives où, en effet, sont des perspectives de vie, Seigneur. Mais toi, Seigneur, je sais que tu les as déjà prévues. Alors je ne veux pas regarder la terre, je veux regarder que ces choses sont déjà prêtes dans le ciel. Elles sont là. Je crois qu'il y a des trésors dans le ciel, insoupçonnés. Alors, Seigneur, donne-moi de pouvoir être suffisamment confiant en toi, de ne pas me laisser écraser, piétiner, meurtrir, de me laisser laminer, Seigneur, oui, par toutes ces choses de la vie, Seigneur, qui sont là pour m'accabler et me désespérer. Mais s'il te plaît, Seigneur Jésus, je te demande que tu me donnes de regarder à toi et de trouver l'espoir, l'espérance en toi. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui pleurent, qui sont plus souvent en larmes que dans la joie, ceux, Seigneur, dont le cœur a été labouré, déchiré, et qui attendent quelque chose. Et ce matin, tu veux leur montrer, Seigneur, que ce que tu leur as dit, eh bien, Seigneur, c'est la vérité, et qu'ils gardent précieusement au fond de leur cœur cette promesse ou ces promesses. Parce que, Seigneur, c'est toi qui vas les réaliser, c'est pas l'homme, c'est pas nous, mais c'est toi qui vas les réaliser. Je te demande, Seigneur, que chacun et chacune puisse ressortir de ce lieu, Seigneur, en ayant reçu une bouffée d'air pur du ciel, en sachant que notre Dieu ne nous abandonne pas. Tu nous dis, nul ne les ravira de ma main. Alors, Seigneur, je veux m'approcher de toi et je veux te dire, comme Paul pouvait le dire parce que c'était sa force, eh bien, Seigneur, donne-moi la force de t'aimer. Donne-moi la force de t'aimer, Seigneur, pour croire que, en effet, Seigneur, sur la route de Rome, il y a ceci, il y a cela. Mais sur la route de Rome, tu as aussi, Seigneur, donné une espérance. Tu as renouvelé notre espérance. Tu nous as donné des frères et des sœurs. Tu nous as donné ta parole, tu nous as donné le Saint-Esprit, tu nous donnes encore les indications de ton Esprit-Saint, Seigneur. Tu nous donnes des dons spirituels, tu nous donnes tant et tant de choses qui nous disent, eh bien, continue, tu es sur le bon chemin. Nous voulons te rendre grâce et te remercier. Bénis mes frères et mes sœurs, et qu'ainsi, Seigneur, tous ceux qui portent la semence en pleurant puissent bientôt revenir avec des chants d'allégresse. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la route de Rome parce qu'elle nous apprend beaucoup de choses. Merci, Seigneur. Amen. Amen.